Bonjour. Merci, Madame la Présidente. Comme souligné par ma collègue, je vais aborder le chapitre 5, mesures de réparation et mesures de protection des enfants contre les disparitions forcées, articles 24 et 25. Question numéro 24, définition des victimes et droit d'obtenir des réparations. La définition de victimes retenues dans l'article 290.2 du Code de procédure pénale ne semble pas couvrir toutes les personnes visées par l'article 24, paragraphe 1er. Est-ce que vous avez l'intention de réviser cet article pour faire en sorte qu'il soit en conformité avec les dispositions de la Convention? Le paragraphe 140 du rapport de l'État parti précise que la victime et son conjoint, ses parents en ligne directe et ses frères et sœurs, dans le cas où la victime est décédée ou souffre de graves troubles physiques ou mentaux. Cette distinction ne semble pas reposer sur aucun des articles de la Convention. Le paragraphe 171 des réponses signale que les termes « victime » et « autres » sont interprétés pour inclure. Fin de citation. Puisque les tribunaux n'ont connu aucun cas de disparition forcée et il n'y a pas de législation spécifique, on se demande qui a le droit d'interpréter. Prière nous préciser dans le système japonais qui a le droit d'interpréter la loi en dehors des magistrats. Prière donner des cas de jurisprudence pour illustrer cette situation. Pourquoi la réparation des préjudices moraux s'adresse, et je cite, notamment au père et à la mère. Donc, quid de la femme et des enfants? Et là, je me réfère au paragraphe 142 du rapport de l'État parti. Et il faut ajouter les autres personnes considérées comme victimes dans le sens de l'article 24. Je viens maintenant au paragraphe 149 du rapport. Ce paragraphe nous interpelle à deux niveaux. Il est précisé dans ce paragraphe, et je cite, « Dans le cas où la disparition forcée constitue un acte illégal de l'autorité publique, d'un agent de l'État, dans l'exercice de ses fonctions. Pourquoi ce conditionnel? Est-ce que la disparition forcée peut être autrement? Par ailleurs, aucune indication n'a été fournie au sujet de la compensation et la réparation qui sera allouée par l'État aux victimes, ni sur le fait qu'elle doit tenir compte de la gravité du crime de disparition forcée. Le contenu du paragraphe, de notre paragraphe mérite des explications. Il s'agit du paragraphe 174 des réponses, où l'on parle de procédures qu'on doit suivre pour obtenir réparation, où le plaignant doit présenter une requête à la justice. Est-ce que la victime directe doit suivre cette procédure? Surtout que le paragraphe 172 ajoute « It's generally unnecessary for a victim to fill a complaint ». Et j'ai cité en anglais pour préciser et pour se demander que vient faire ce mot « generally » et quelle est sa portée. L'article 24, dans son paragraphe 2, souligne l'importance du droit de savoir en tant que composante essentielle de la réparation d'un crime de disparition forcée et de la réconciliation de la victime avec elle-même et avec les autorités. L'article précise que ce droit de savoir doit porter sur les circonstances de la disparition, le déroulement et le résultat de l'enquête, le sort de la personne disparue. Comment l'État parti a ou a l'intention de répondre à l'injonction de cet article, puisque ce paragraphe précise, et je cite, « Tout État parti prend les mesures appropriées à cet égard ». Je viens maintenant à la question numéro 25, qui concerne la situation légale d'une personne disparue. Les réponses de l'État parti utilisent en anglais le mot « adjudication of death ». Est-ce que cette adjudication correspond à la déclaration de décès ou elle a une autre portée? Par ailleurs, on prend note du contenu du paragraphe 186 des réponses qui indique que les primes d'assurance et autres primes de pension restent dues jusqu'à la déclaration de décès. Toutefois, on est en droit de s'interroger qui doit payer ces émoluments et est-ce que la famille doit attendre 7 ans et en plus payer cette somme avant d'avoir accès aux pensions et autres assurances. Et j'ajouterai une question subsidiaire. Est-ce que les associations des victimes créées bénéficient-elles du soutien matériel du gouvernement mis à disposition de locaux, subventions annuelles et autres? Je viens maintenant à la dernière question, qui est la question numéro 26 et qui concerne l'article 25, soustraction d'enfants. Prière nous préciser quel est le texte législatif qui incrimine la soustraction d'enfants, tel que spécifié dans l'article 25, paragraphe 1. Est-ce que les enfants disparus bénéficient d'une procédure particulière en matière de recherche et est-ce qu'il y a un mécanisme de recherche en urgence? Est-ce qu'on peut bénéficier d'informations au sujet de l'utilisation de la base de données mentionnée dans le paragraphe 152 du rapport de l'État parti? Également, prière fournir des informations au sujet de la procédure existante pour assurer le retour de l'enfant à sa famille d'origine. Et est-ce qu'il existe une procédure pour annuler l'adoption d'un enfant victime d'une disparition forcée et s'il y a un mécanisme permettant à ces enfants de connaître leur vraie identité. Je termine par la référence au paragraphe 164 du rapport qui précise que la police considère recevables les déclarations de disparition concernant des enfants par des personnes ayant des liens sociaux avec l'enfant. Quelle est la portée de ce lien social? Est-ce que le professeur d'école ou le médecin, est-ce qu'on peut avoir une idée sur la liste qu'englobe ce terme liens sociaux. Merci de votre attention et de votre coopération.